Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, on va parler d'une série sur une secte aux États-Unis et de jeux d'horreur. Ne me demandez pas ce que c'est. Je n'ai pas voulu savoir avant et je crains le pire. Notre infomédia, elle l'a dit, Roman Hockey, avec le scoop du journal L'Équipe ce matin, une interview fleuve de Zinedine Zidane. L'équipe, pour l'occasion, change de nom. Zinedine, c'est ce qu'on voit en une. Lui, Zizou, qui ne parle quasiment jamais et très peu. Cette fois-ci, il se confesse sur pas moins de 18 pages. Il raconte les hauts et les bas de sa vie de footballeur, la Coupe du Monde triomphale de 98, mais également les ratages, l'Afrique du Sud ou encore le coup de boule à Materazzi. Évidemment, sa nouvelle vie d'entraîneur, équipe de France ou PSG? Comment se négocie une exclue comme celle-ci? Quelles sont les conditions mises par la star? Est-ce qu'il y a relecture, des coupes ou au contraire? Rien de tout ça. Réponse avec le directeur de la rédaction de l'équipe, Jérôme Cazadieu, qui arrive dans ce studio. Nos invités ensuite, la plus célèbre drag queen française, Nikki Doll. Elle incarne la version française de Drag Race, concours de drag queen, très populaire dans le monde entier, notamment aux États-Unis, et qui sera diffusée, surprise, sur France 2 samedi en seconde partie de soirée. Nous sommes également avec le producteur de l'émission, Raphaël Tchoffi. Enfin, la romancière Anne Goscinny pour Romance, qui vient de sortir chez Grasset. Romance, ce n'est pas un genre littéraire, c'est le prénom d'une petite fille qui lui ressemble beaucoup. Je la cite, ce roman, j'ai mis 42 ans à l'écrire, elle nous dira pourquoi. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Diams accorde sa première interview télé depuis 7 ans. Nadine Trintignant se confie à Paris Match. Un nouveau venu dans le monde de la presse. L'Iran interdit un film primé à Cannes. Et puis dans un tout autre genre, Envoyé spécial se penche sur la problématique du GHB.
Mais d'abord, les audiences à la télé qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé France 2, le téléfilm Comme des Reines, 2 720 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience. Petit leader en France 2, et c'est un peu décevant parce que c'est un film qui a été très salué par la critique et qui a eu plusieurs prix. Donc on a connu meilleur score pour des téléfilms. Deuxième, c'est TF1 avec la suite de la série italienne Doc, 2 620 000 téléspectateurs, c'est vraiment au coude à coude avec France 2, 15,3% de part d'audience. Et puis troisième, M6 avec Cauchemar en cuisine, 2 260 000 téléspectateurs, 12,1% de part d'audience. M6 qui était plus en forme que lors de la dernière diffusion de Cauchemar en cuisine.
Europe 1 Culture Média.
Pour ouvrir ce journal des médias, l'émission 7 à 8 sur TF1 qui obtient une interview de Diams.
Oui, à l'occasion de la sortie de son documentaire Salam, dont on a beaucoup parlé, elle s'est confiée à Audrey Crespo-Mara pour le portrait de la semaine, information du Figaro. Le retour médiatique de Diams passe donc aussi par une interview, la première à la télévision depuis 2015. Elle avait accepté un entretien récemment, mais c'était pour un média en ligne, pour Brut. C'était avec Augustin Trapenard. Il faut dire que Diams a un lien particulier avec 7 à 8, puisque c'est dans cette émission qu'elle a fait ses dernières apparitions médiatique, toujours dans ce fameux portrait de la semaine. À l'époque, c'est Thierry Demézière qui l'incarnait. C'est là aussi qu'elle est apparue pour la première fois voilée. C'était il y a 10 ans. Cette troisième et nouvelle interview dans 7 à 8 est donc diffusée ce dimanche à 19h30 sur TF1.
Et l'interview pour Brut avait fait polémique. Là aussi, il est question d'interview exclusive Paris Match qui obtient les confidences de Nadine Trintignant.
Mais dans le numéro qui vient de sortir en kiosque, elle rend un dernier hommage à son ex-mari Jean-Louis Trintignant, décédé vendredi dernier, le père de ses enfants. Paris Match s'est donc rendue chez elle dès le dimanche et Nadine Trintignant s'est confiée sur le choc que fut la mort de son ex-mari à qui elle rendait régulièrement visite, sur son intelligence et sa profondeur qui l'a gardée jusqu'au bout, dit-elle. Sur leur dernière conversation aussi, l'acteur lui a dit « Quand l'un de nous deux mourra, l'autre perdra le témoin de sa jeunesse.
Wow. »
Elle revient sur son amour du cinéma, comment il choisissait ses films, comment il ne voulait pas tourner en famille aussi. Et puis elle se replonge dans leur histoire d'amour. Et je vais finir sur cette jolie citation dans l'article de Paris Match. Avec Jean-Louis, on a cessé d'être amoureux. Ce sont des choses qui arrivent, mais on n'a pas arrêté de s'aimer. Paris Match est en kiosque.
Actualité presse toujours, un nouveau venu dans les kiosques justement.
Oui, le magazine Onirique avec un cul à la fin, un trimestriel sur le monde du luxe lancé aujourd'hui par le patron de Forbes France, Dominique Busseau. Près de 200 pages, le tirage est prévu à 50 000 exemplaires avec une particularité. La moitié sera disponible en kiosque et l'autre distribuée dans les palaces français. Le premier numéro est sorti aujourd'hui avec l'actrice Alice Taglioni en couverture et s'est vendu 9€.
Avec un cul à la fin, ça sonne bizarre mais on ne peut pas dire autrement. L'Iran qui interdit la
diffusion vraiment
l'esprit
mal placé,
d'un film. Non, je me disais, ça sonne très étrange et c'est vrai qu'il faut le dire. Sinon, si vous cherchez avec l'écriture originelle,
vous
ne trouvez pas.
Vous voulez que je le dicte ? O-N-I-R-I-Q. C'est mieux comme ça.
C'est parfait. C'était parfait déjà. L'Iran qui interdit la diffusion d'un film primé au Festival de Cannes.
Leïla et ses frères n'ont pas obtenu d'autorisation. Le motif, le réalisateur n'a pas voulu modifier son film comme l'exigeait le ministère de la Culture iranien. Et il a enfreint les règles en participant sans autorisation à des festivals étrangers, à Cannes et à Munich. À Cannes, le film a justement obtenu un prix, le prix du jury de la Fédération internationale de la presse cinématographique. Leïla et ses frères racontent l'histoire d'une famille pauvre prête à imploser dans un pays, l'Iran, en pleine crise économique.
Et ce n'est pas le seul film présenté à Cannes qui a subi les foudres du ministère de la Culture iranien.
Non, Les Nuits de Mashhad aussi, un thriller sur un tueur en série de prostituées à Mashhad, donc une ville très religieuse du pays. Un film qui a valu à l'actrice principale, Zahra Amir Ebrahimi, le prix d'interprétation féminine lors de ce festival, ce qui a fortement déplu à l'Iran. Téhéran a dénoncé un choix biaisé et politique, un film faux et dégoûtant qui propose une image déformée de la société iranienne et insulte ouvertement les croyances transcendantes des chiites. D'après un communiqué, l'actrice, elle, est réfugiée en France depuis 2006.
Le journaliste Denis Robert gagne son procès contre Le Média.
Oui, l'ancien directeur de la rédaction de cette web télé avait contesté son licenciement pour faute grave, licenciement qui avait eu lieu en octobre 2020. Il avait alors publié une vidéo dans laquelle il dévoilait les fortes tensions en interne. Lui était aussi reproché des problèmes de management et des propos à connotation sexiste. Des explications qui n'ont pas été retenues par le tribunal pour justifier un licenciement pour faute grave. Il a été requalifié en licenciement nul, selon le journal Le Monde. Le Média a donc été condamné à payer 300 000 euros à Denis Robert. C'est une très grosse somme, une somme qui met en péril la web télé, selon son avocate, car Le Média n'est financé, l'avocate du Média, hein, le Média n'est financé que par des souscripteurs et les comptes n'étaient déjà pas au beau fixe. Denis Robert lui a assuré au journal Le Monde ne pas vouloir étrangler la web télé et vouloir négocier. Il laisse un petit peu de temps pour régler la somme due. Le Média va faire appel de son côté.
Et on termine ce journal avec le focus programme du jour, envoyé spécial qui s'intéresse ce soir au GHB.
Oui, c'est une substance revenue dans l'actualité dernièrement avec le phénomène des piqûres, des jeunes femmes et hommes qui se plaignent d'avoir été piqués pendant des soirées, des festivals. On ne sait pas encore quels produits sont injectés et s'il y en a, mais on soupçonne notamment le GHB. Et il n'y a pas qu'avec ces piqûres que cette drogue du violeur, comme on la surnomme, a fait parler d'elle. Eugénie Ivrande, réalisatrice du reportage.
Il a commencé à en consommer en soirée il y a un an et demi. Mais au fil des mois, c'est devenu son quotidien.
C'est le premier réflexe quand je rentre, quand je pars de chez moi.
Alors, c'est ce que vous entendez. C'est un extrait du reportage qu'on découvrira tout à l'heure. Là, on va entendre un son d'Eugénie Ivrande, qui est donc réalisatrice du documentaire et qui nous explique pourquoi elle s'est intéressée au GHB.
On s'est intéressé au GHB parce que c'est vrai que c'est un produit dont on entend de plus en plus parler dans l'actualité. Il y a eu notamment ces pages Instagram Balance ton bar qui ont commencé à émerger avec beaucoup de témoignages de personnes victimes de soumissions chimiques dans le but soit d'être violées par exemple ou alors d'être dépouillées ensuite. Ça, c'est d'ailleurs un phénomène assez nouveau. Et puis aussi parce que c'est une drogue qui est désormais utilisée de manière festive par des consommateurs. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonnés et dont on parlait pas il y a encore quelques années.
Envoyé spécial a donc recueilli le témoignage d'un homme drogué à son insu par deux agresseurs avant d'être dépouillé. Ils sont parvenus à lui faire retirer de l'argent, à s'inviter chez lui pour repartir avec un gros butin. Une méthode bien rodée et pratiquée pendant un an par ces deux hommes. Dans ce reportage, on comprend aussi la difficulté pour les victimes de prouver la présence de GHB dans leur corps puisque la substance disparaît en quelques heures seulement. Et là où le sujet devient plus inattendu, c'est quand la journaliste s'intéresse à cet usage festif du GHB, ou plutôt du GBL. En fait, c'est un solvant industriel qui, dès qu'on l'ingère, se transforme en GHB dans le corps. Alors certains jeunes en consomment volontairement, ça a un effet désinhibant, euphorisant, un peu comme l'alcool, à un prix très attractif en plus. Mais pas seulement, ça a aussi des effets très addictifs. Un jeune homme de 26 ans a accepté de témoigner.
Il a commencé à en consommer en soirée il y a un an et demi, mais au fil des mois, c'est devenu son quotidien.
C'est le premier réflexe quand je rentre, quand je pars de chez moi. À chaque moment, je dois faire quelque chose, en fait. Directement. Alors, en termes de dosage, je suis à 1,5. Mais parfois, je prends même 1,7, 1,8, ce qui, en soi, est énorme.
Sans sa dose, le jeune homme serait incapable de faire quoi que ce soit.
Disons
que
c'est comme une boisson énergisante. Ça me booste pendant une heure et demie, ouais.
C'est à découvrir ce soir dans Envoyé spécial. C'est un reportage d'Eugénie Ivrande, Paul de Boissieu et Jeanne Bureau. C'est diffusé à 21h10 sur France 2. Et puis je vous donne aussi le reste du sommaire. Une enquête sur les livraisons à domicile et une immersion en prison dans l'une des plus grandes maisons d'arrêt d'Île-de-France.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit l'inscription. C'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour avec une exclue de chez exclue, comme on dit, que préparait le journal L'Équipe depuis des mois. Elle sort ce matin dans les kiosques et sur le numérique. Interview de Zinedine Zidane à l'occasion de ses 50 ans. C'est aujourd'hui. Nous sommes avec le directeur de la rédaction du journal L'Équipe, Jérôme Cazadieu.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
C'est une exclue de chez exclue que préparait le journal L'Équipe depuis des mois, peut-être même plus. Elle sort ce matin dans les kiosques et sur le numérique. Une interview de Zinedine Zidane à l'occasion de ses 50 ans, ce 23 juin 2022. Pourquoi Zidane ? Parce qu'il est au centre de la galaxie football. Des semaines qu'on l'annonce ou pas comme futur entraîneur du PSG. Après avoir tout gagné comme joueur en club, en équipe de France, il a tout gagné ensuite comme entraîneur avec le Real Madrid. Il lui manque une Coupe du Monde et il rêve de l'équipe de France. Et ça aussi, c'est à découvrir dans L'Équipe. Il est également question des hauts et des bas de sa vie de footballeur, puis de celle d'après. Il raconte sa Coupe du Monde victorieuse, mais également le ratage de la campagne d'Afrique du Sud, mais aussi le coup de boule à Materazzi. Pourquoi cela nous a intéressé à Culture Média ? On n'est pas une émission de sport. Parce que Zidane parle très peu à la presse, pour ne pas dire quasiment jamais. Et quand il parle, c'est souvent laconique, c'est un taiseux. Mais ce matin, vous en aurez pour votre 1,50€. Combien ça coûte L'Équipe ? 2,20€. Vous en aurez pour vos 2,20€. L'entretien fait pas moins de 18 pages dans le journal. Comment se négocier un scoop comme celui-ci ? Quelles sont les conditions mises par la star ? Est-ce qu'il y a eu relecture ? Est-ce qu'il y a eu des coupes ? Ou au contraire, rien de tout ça ? Question que je vais poser au directeur de la rédaction de L'Équipe. Bonjour Jérôme Cazadieu.
Bonjour Philippe.
Merci d'avoir choisi Culture Média pour raconter les coulisses de cet entretien, c'est-à-dire les grands entretiens de presse tels qu'ils se font, qu'ils se pratiquent. Je vais commencer par le commencement, la logistique. Quand avez-vous réalisé cet entretien et dans quelles conditions ? Vous le racontez un peu, tout a commencé en décembre dernier, mais peut-être un peu avant aussi.
En fait, on avait coché il y a à peu près un an la date du 23 juin et des 50 ans. On savait que voilà, Zinedine Zidane ne parle quasiment jamais, en tout cas quand il était en exercice en tant que coach. Voilà, comme beaucoup d'autres, comme Guardiola par exemple, il ne s'exprime jamais dans des entretiens individuels.
Il parle quand il est obligé. Si vous avez vu Zidane à la télé, c'est que ça fait partie du règlement que de venir parler devant la presse.
Exactement.
Mais hors de ça, il n'y avait quasiment rien.
Jamais, voilà. Et donc, on s'est dit, voilà, il n'est plus coach, il est dans un entre-deux où il profite de la vie, il profite de ses enfants et de sa famille. Faut savoir que moi, j'avais interviewé Zinedine Zidane en 2018, avant la Coupe du Monde 2018, pour les 20 ans du titre de champion du monde. Et dans son bureau à Madrid, quand il était donc au centre d'entraînement de Valdebebas du Real Madrid, il a un petit bureau et en fait sur sa table, il a deux choses. Il a L'Équipe et France Football. Et il expliquait la chose suivante, il disait, moi L'Équipe, c'est le journal de mon père, c'est le journal que lit mon père. Et donc on a toujours eu un lien avec lui qui était fort. Mm-hmm. On a, je pense, toujours respecté nos paroles, en tout cas à chaque fois qu'on a fait, et respecté, comment dire, la personne qu'il est dans tous les entretiens qu'on a fait depuis très longtemps, hein, puisque c'est celui qui a fait le plus la une de L'Équipe.
Donnez le chiffre d'ailleurs.
C'est ça, on a fait 195 fois la une. Et donc on a commencé à discuter avec lui. C'est notre journaliste François Verdonnet qui est rentré en contact, qui connaît très bien son agent, qui le connaît également. Voilà, il y a une première entrevue au mois de décembre pour donner un peu les contours. Et puis, il s'est engagé à nous donner deux rendez-vous qu'on a fait au début du mois de mai. On l'a vu deux fois, l'équivalent à peu près de 6 heures. On a fait deux séances photos, de l'entretien en deux fois. Mmh. Et voilà. Et on avait préparé avec François l'entretien en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit vraiment voilà, que ce soit top quoi. Mmh. On s'est dit, on allait faire un entretien fleuve, quelque chose qui marque, voilà. Et donc on s'était suggéré peut-être de lui amener les 7 unes qui étaient un peu iconiques, emblématiques pour lui. Donc on les a fait imprimer sur du papier photo, on lui a amené et puis on lui a apporté quoi.
Alors je veux dire, ce qui m'a impressionné, c'est aussi le timing. Alors évidemment, l'anniversaire des 50 ans de Zidane, on n'a pas choisi, c'est aujourd'hui 23 juin, mais c'est à ce détail qu'on voit la puissance d'un journal comme le vôtre, puisqu'on sait vraiment officiellement depuis hier ou avant-hier que Zidane ne sera pas le futur entraîneur du PSG, ça devrait être Christophe Galtier, je dis ça, tout peut toujours changer dans la galaxie foot.
C'est bien parti pour.
Votre entretien ne pouvait pas être publié plus tôt au milieu des tractations, je vais le dire différemment. Les tractations, on a l'impression qu'elles se sont terminées pour que votre interview puisse être publiée.
Alors, sur...
Et d'ailleurs, il parle de l'équipe de France.
Tout à fait. Bon, évidemment que Zidane est quelqu'un qui plaît, comment dire, au Qatar depuis très longtemps. Il a une relation directe avec l'émir du Qatar, voilà. Je pense qu'il a... Sa priorité, c'était les Bleus. Voilà.
Non, mais là, vous me répondez à une question football. Moi, je parlais d'une question média. On a l'impression que tout s'est cristallisé, tout s'est bouclé la veille de l'interview de Zizou. Pour que les uns ne marchent pas sur les pieds des autres. Alors, ou est-ce que je me trompe ?
Je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est plus un concours de circonstances qui fait que... voilà, moi, nous, on avait fait cet entretien avant. On savait qu'il serait dans l'actualité parce qu'il est libre. Ouais. Donc, on lui avait demandé de pouvoir rajouter, de le rappeler, de rééchanger avec lui pour compléter en fonction de l'actualité.
Alors, voici la révélation faite par Zidane. J'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe, vous dit-il, en tant que joueur. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et là, votre journaliste raconte qu'il met la main sur le cœur. Aujourd'hui, je suis entraîneur. L'équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Vous pensez que Didier Deschamps va être content de lire ça ?
Non, sûrement pas. C'est sûr, parce qu'il est en place, parce qu'il n'a pas prolongé, parce que la Coupe du Monde est dans pas très longtemps et que les résultats de l'équipe de France récents n'ont pas été bons. Mais bon, voilà, après, je veux dire, Didier Deschamps sait que Zinedine Zidane est intéressé par l'équipe de France depuis longtemps. Voilà, il sera pas surpris. Donc voilà, je trouve qu'il n'est pas très... en tout cas, dans cet entretien, Zinedine Zidane n'est pas focalisé sur l'idée de prendre la place de Deschamps. Il dit qu'il aimerait prendre le poste de sélectionneur. S'il ne se présente pas, je pense qu'il fera autre chose.
Et sur le PSG, il y a toute une polémique en ce moment. Est-ce qu'il va aller au PSG ou pas au PSG ? Est-ce qu'il a eu des contacts, oui ou non ? Est-ce qu'il a eu des contacts avec Nasser, le président, ou alors directement à Doha ? C'est dans le même groupe. Hier, dans le Parisien, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a dit « On a choisi une autre option que Zidane. On n'a jamais parlé avec lui ni directement ni indirectement. Beaucoup de clubs s'intéressent à lui. On n'a jamais discuté avec lui. » Il ajoute « Il y a des détails dans le club que vous ne connaissez pas. » Jérôme Cazadieu, 24 heures plus tard, est-ce que vous connaissez ces détails ?
Sur cette histoire de Zidane au PSG, je pense qu'on a eu affaire à pas mal de déstabilisation. Moi, l'interprétation que j'en fais... D'abord, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Zinedine Zidane, aujourd'hui, si demain il va au PSG, ça se réglera directement avec l'émir du Qatar. Voilà. Ça ne se réglera pas avec obligatoirement Nasser. Voilà.
Après, vous n'avez rien de plus que l'interview donnée aux Parisiens. Ou est-ce qu'entre-temps, il y a eu des nouveautés ? Parce que vous êtes au cœur de la machine.
Oui.
Quand on est le patron de la rédac de l'équipe, on sait des choses que les autres ne savent pas.
Je pense que Zidane n'a jamais eu l'intention d'aller au PSG cet été.
Voilà. On va parler de cet entretien fleuve que donne Zidane à l'équipe, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres sujets, il y a des histoires anecdotiques, il y a la rencontre avec sa femme, ça parle de politique, ça parle de ses parents, ça parle de plein de choses, il y a même du carnet rose, il y a des anecdotes sur les femmes, il y a comment dort-il ? Je vous jure que c'est dans l'équipe. Culture Média continue, Jérôme Cazadieu est avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est la une de l'équipe, évidemment. 18 pages d'interview. Le titre « Je n'ai jamais de regrets », c'est Zinedine Zidane qui parle et qui se confie avec les Bleus. Ce n'est pas fini, c'est vraiment un joli scoop que vous avez eu là. Jérôme Cazadieu, vous êtes le directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Ce n'est pas vous qui avez fait l'entretien, c'est votre reporter qui est allé directement à Madrid. Zizou parle de beaucoup de choses, des choses joyeuses. Il parle d'équipe de France. Évidemment, ce n'est pas la peine de revenir sur la Coupe du Monde 98. Tout le monde a aimé. La Coupe du Monde 2006 en Allemagne, c'est assez marrant, c'est presque l'autogestion. On découvre que les joueurs avaient pris les clés de l'équipe.
Exactement, les joueurs avaient pris les clés de l'équipe et en fait, ils avaient décidé d'un peu organiser la vie du groupe et donc ils avaient pris une habitude, notamment quand ils étaient à côté de leur hôtel, ils avaient repéré un restaurant qui, en gros, leur préparait des couscous, etc. Et ils faisaient commander, en gros, leur merguez depuis Berlin, qui venait et ils se faisaient des gueuletons, et ils se faisaient les préparations des matchs, les échanges sur comment ils allaient affronter le Brésil ou d'autres.
La stratégie qui a été faite avec des merguez de Berlin, 4 heures à table, des moments magnifiques, confie Zizou dans l'équipe. Il revient aussi sur le fameux coup de boule de Amaterasi en finale de la Coupe du Monde 2006. Il dit « c'est comme ça, c'est dur ». C'est ma carrière, c'est l'histoire de ma vie, c'est pour ça que je dis qu'avec l'équipe de France, c'est pas fini. Il veut pas rester sur ce coup de tête.
Je trouve que c'est un petit changement par rapport à avant, parce qu'il a toujours dit « j'ai jamais de regrets, ça fait partie de ma carrière, de ma personnalité, etc. Ouais. » Mais là, le fait qu'il lit, entre guillemets, son retour en équipe de France, notamment en espérant récupérer le poste de sélectionneur, c'est la preuve qu'il a envie que l'histoire se termine un petit peu différemment. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'un peu nouveau, qu'il n'avait pas nécessairement dit jusqu'à présent.
Pouvez-vous revenir sur ce coup de tête sur Marco Materazzi, demande votre journaliste. Ce jour-là, dit Zidane, ma maman était très fatiguée. J'ai plusieurs fois ma sœur au téléphone dans la journée. Je sais que maman n'est pas bien, mais ce n'est pas très grave. Ça m'interpelle non moins. Les choses se bousculent, la pression, etc. Materazzi ne me parle pas de ma mère. On a souvent dit qu'il n'avait pas insulté ma mère. C'est vrai, il a insulté ma sœur qui était auprès de ma maman à ce moment-là. Sur le terrain, il y a eu des insultes. Tout le monde se parle parfois mal, mais tu fais rien, dit Zizou. Et là, il raconte que c'était quelque chose de trop. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila, l'espace d'une seconde. Et c'est parti. Interview vérité. Mais il ne dit pas ce que Materazzi lui a balancé sur sa sœur. Ou alors il vous le dit et vous ne l'avez pas écrit.
Alors... Là, je n'ai pas la confidence, pour être tout à fait honnête. Il faudrait que je le demande à mon reporter. Moi, je ne suis pas sûr qu'il ait donné en gros ce détail-là. Après, ce qui est certain, c'est que voilà, Materazzi est un trash talker. Donc, c'est quelqu'un qui insultait sur le terrain pour essayer de faire dégoupiller les joueurs adverses. Zizou, on sait qu'il a toujours eu une capacité à prendre des cartons rouges facilement. Et donc, il a réussi ce qu'il cherchait, quoi, c'est-à-dire à faire en sorte que les Français finissent à 10.
C'était une question aux médias que je vous posais, en fait, en l'occurrence. Comment se négocie une exclusivité comme celle-ci? Quelles sont les conditions mises par la star? Par exemple, est-ce qu'il y a eu relecture? Et si oui, est-ce qu'ensuite il y a eu des coupes ou aucune? Alors, qu'est-ce que vous lui avez promis?
Alors nous, ce qu'on lui a promis, c'est que sur tous les passages qui étaient des passages un peu compliqués,
comme celui-ci par exemple,
comme celui-ci, il y avait possibilité, comme aussi parfois quand ça concernait sa famille, d'avoir une relecture de ses déclarations, voilà. Et l'idée, c'était de dire, voilà, si jamais dans les déclarations il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, qui a été ou qui est contraire à l'idée qu'il poussait, on pouvait modifier. Mais il y a eu zéro coupe, quasiment.
Zéro coupe. Zéro coupe quasiment ou zéro coupe?
Il y a eu, deux petites choses, mais qui sont totalement anecdotiques.
Voilà, et on ne va pas vous demander lesquelles, puisque justement, si elles sont coupées, c'est que pour qu'elles ne soient pas révélées.
Exactement.
Il y a aussi du carnet rose. Il raconte comment il rencontre sa femme à Cannes.
Ouais. Il est à Cannes, il est au début de sa carrière professionnelle. Et il est dehors, il avait neigé ce jour-là, il fait tomber sa montre, par terre, et c'est par ce biais-là, entre guillemets, qu'en cherchant sa montre, qu'il va rencontrer sa femme, avec laquelle il va...
Ils sont toujours ensemble.
Exactement, ils avoir toujours... quatre enfants.
Voilà, et on dirait un film de Capra, anecdote pour les fans, il était fan du joueur Francescoli. Ça parle à beaucoup de gens, immense joueur argentin.
Uruguayen.
Uruguayen, pardonnez-moi, vous avez raison. La première fois que Zizou joue contre lui, il lui demande son maillot, mais ça va beaucoup plus loin que ça, a raconté Jérôme Casadieu.
En fait, lui étant gamin, donc il grandit à Marseille, et Francescoli est une star à l'OM, et donc il va le voir dans le stade jouer, etc. Et quand il le croise donc dans un match un peu de bienfaisance bien des années plus tard et qu'il est footballeur, Francescoli lui donne son maillot, et le soir, au moment d'aller se coucher, il surgit dans son lit avec le maillot de Francescoli, et sa femme lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce maillot-là » Et il dit « Mais en fait, je suis comme un gamin, hyper content, parce qu'en fait, il dort avec le maillot de son idole. »
Je me marre parce qu'on dort avec son maillot de foot. En gros, ça s'arrête vers 12-13 ans.
C'est ça.
Lui, il est marié, il a des enfants, il dort avec le maillot.
Exactement, il dort avec le maillot, et pour lui, voilà, c'est... Et quand il le raconte, il a encore des étoiles plein les yeux.
Il précise quand même qu'il l'a lavé avant.
Tout à fait.
C'est précisé, il y a vraiment de l'info, il y a 18 pages, je rigole pas. J'ai quelque chose à vous lire. J'ai 50 ans, je vois le jour en 72, je débute ma carrière sportive dans les années 80, la 5 est un numéro spécial pour moi, j'ai remporté de nombreux trophées, j'ai porté les couleurs de la France, je fais rêver des millions de Français, je suis connu dans le monde entier, j'aime me faire tout petit même si j'ai un caractère bien trempé, des rumeurs circulent sur mon retour en France, on croit que c'est Zidane, pas du tout. C'est la Renault 5 et c'est une pleine page pour Renault. Là aussi, c'est un très, très joli coup média que vous avez fait là. C'est la première fois que je lis une publicité en 657 émissions aujourd'hui. Ouais. Comment vous avez réussi ce coup-là avec Renault?
Eh bien,
donc, ils étaient dans la confidence.
Exactement. C'est nos équipes commerciales, les équipes de la régie qui ont discuté avec plusieurs annonceurs et par rapport aux 50 ans de Zizou. Et donc, voilà.
Je vais donner l'info.
Ils ont fait leur créa.
Pour qui ne connaît pas, je vais donner l'info. C'est que Renault s'apprête à sortir à nouveau la Renault 5 en mode électrique.
Exactement.
Question média, comment se porte l'équipe? J'ai vu un chiffre qui m'a fait plaisir. En 2021, vous avez réalisé un profit de 4 millions d'euros alors qu'il y avait une perte de 10 millions en 2020. Comment vous avez fait pour remonter cette pente?
En fait, nous, on a été très impactés par la crise du Covid, le premier confinement, puisque le sport s'était arrêté.
Donc, c'est remonté naturellement? Ou est-ce que vous avez changé l'architecture, la voilure?
Alors, on ne s'est pas remonté naturellement, parce que le print a souffert. Il y a une digitalisation des habitudes et des usages de nos lecteurs. Mais surtout, en fait, on a essayé de densifier notre proposition éditoriale. On a une proposition d'information, on a ajouté deux sous-sections, une qu'on appelle l'équipe live, où vous avez la diffusion de compétitions en direct qui n'ont plus toujours leur place sur les télés payantes ou les télés gratuites. Et vous avez à côté de ça l'équipe Explore qui s'est lancée en fait dans du documentaire, des podcasts natifs, des longs formats, donc qui est plus une offre de plateforme. Donc on a une offre d'information, une offre de plateforme et tout ça, ça aide à remonter.
Vous avez décidé de ne plus être diffusé dans les kiosques numériques comme ePress, YouBooks, PressRider ou Caféine. Pour quelles raisons et pour quelles conséquences? Parce que, me dites pas la raison pour laquelle, parce que précédemment vous avez fait différemment. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Mais en fait, maintenant il est hyper important qu'on ait le rapport direct avec, avec nos abonnés sur le numérique, voilà, qu'on ait les données avec eux, qu'on puisse les travailler et donc qu'on puisse les garder le plus longtemps possible. Aujourd'hui, je pense qu'on est suffisamment mature en termes, on a un parc abonné qui est extrêmement important puisqu'on a 360 000 abonnés.
Ah oui.
Il est important maintenant que ce soit géré par nous et pas toujours par des intermédiaires. On a encore quelques intermédiaires parfois, mais en tout cas ces intermédiaires-là, voilà, n'étaient pas obligatoirement bons pour le développement de notre portefeuille.
Merci beaucoup Jérôme Cazadieu. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de l'équipe. Avec les Bleus, c'est pas fini. Voici ce que dit Zinedine Zidane. Et il y en a 18 pages. Ça vaut 2,20 €. Ça fait vraiment pas cher la page d'interview exclue. Et j'ai l'impression qu'il a plus parlé avec vous que pendant toute sa carrière. Merci pour ce coup-là. Bravo pour
Merci
ce
Philippe.
Scoop. Dans un instant, il faut sortir les talons aiguilles. On va parler Drag Race France, nouvelle émission de télé-réalité, concours de drag queen. C'est diffusé sur France TV/. Mais surtout, ça sera samedi soir sur France 2. On en parle avec l'animatrice de ce grand concours, c'est Nicky Doll, et le producteur Raphaël Choffy. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On est dans l'ambiance du RuPaul Drag Race. Vous allez comprendre de quoi je parle. Bonjour Nicky Doll.
Bonjour.
Vous êtes la drag queen française la plus connue aux États-Unis. Vous avez commencé votre carrière en 2009, à la fois chanteuse, mannequin. Vous êtes apparue dans des magazines tels que Vogue, Gala ou Cosmo. Vous avez travaillé à Paris. Et puis, vous êtes installée à New York. Et vous avez été en 2020 la première candidate française du mythique concours de drag queen RuPaul Drag Race, dont on entend l'hymne. C'était lors de la saison 12. Raphaël Choffy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur. Vous avez notamment écrit pour la pastille de Canal+, Catherine et Liliane. Mais vous êtes surtout le coproducteur et l'auteur de Drag Race France. C'est vous qui avez adapté ce format américain pour la télé ici. Drag Race France, c'est à partir de ce samedi sur la plateforme France TV/. Mais surtout, diffusion exceptionnelle du premier épisode le même jour sur France 2 à 23h30. Donc samedi, donc après-demain. Alors Nicky Doll, je me tourne vers vous en premier pour qu'on sache bien de quoi on parle. Quelle définition donnez-vous d'une drag queen?
En fait, une drag queen, c'est tout simplement un artiste avant tout. Et j'adore définir une drag queen comme l'extension de l'artiste qui se cache derrière. C'est un peu cette super héroïne qu'on se crée pour pouvoir monter sur scène et donner un peu notre perception de la vie et surtout apporter un avis sur les règles qu'on nous force à suivre. Et c'est un peu un doigt d'honneur très glamour à la société.
Alors là, vous êtes au paroxysme de la féminité. Juste un mot, combien de temps de préparation? Ou est-ce que c'est secret, cette préparation-là?
Non. Alors en fait, si je suis en retard, généralement, je peux le faire en 40 minutes. Et si j'aime bien prendre mon temps, c'est 2h30.
Alors c'est vous qui présentez et qui portez cette version française de Drag Race. Aux États-Unis, c'est une célèbre drag queen qui s'appelle RuPaul qui a lancé ce concours en 2009. Qui est-elle et quel est le concept de l'émission?
Alors, déjà, RuPaul, c'est un peu la mother de toutes les drag queens. C'est quelqu'un qui a réussi à vraiment ramener cet art qui n'était pas très bien compris par le mainstream et qui a réussi en fait à le démocratiser. Et RuPaul's Drag Race, en fait, c'est une compétition de drag queens où en fait on crée une sorte de microcosmos pour que les queens puissent se challenger sur de la comédie, sur du chant, sur de la performance, sur du stand-up, afin de pouvoir en fait être préparées au showbiz et devenir les stars qu'elles étaient destinées à devenir.
Raphaël Choffy, vous êtes le coproducteur de cette émission en France. C'est vous qui êtes allé voir En Démol Shine. C'est dans cet ordre que ça s'est fait. Avec quels arguments? Ou est-ce que vous êtes d'abord allé voir la chaîne? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'ils disent « Ok, on fonce, on fait la version française de ce concours américain ».
Alors, ça s'est bien passé dans cet ordre, mais ils n'ont pas été très difficiles à convaincre. En fait, moi, quand j'ai vu Drag Race la première fois, j'ai eu un choc, parce que c'était la première fois que je voyais nos communautés étendues, être aussi bien représentées, et avec autant de fierté et de flamboyance. Donc, j'ai directement...
Qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous dites « nos communautés »
La communauté LGBTQI+, et aussi ses représentations artistiques via le drag. Du coup, très naïvement, en fait, j'ai contacté les ayants droit américains, World of Wonder, qui ont été séduits par l'idée d'avoir une adaptation française. parce qu'on la voulait très française. Et très rapidement, on m'a présenté Nicolas Missoff, donc mon coproducteur chez Endemol Shine, qui a complètement compris ce qu'était l'émission en termes et de divertissement et de valeur. Voilà, parce que c'est une émission qui est aussi importante dans les deux.
À quoi ressemble cette adaptation de Drag Race ? C'est difficile en radio parce que les images sont absolument flamboyantes, mais quand même au son, ça tient la route. On écoute Nikki, c'est la bande-annonce.
Je cherche la prochaine grande reine du drag français. Parmi des centaines de drag queens, seules 10 ont été sélectionnées pour ce concours hors normes. Chaque semaine, nos reines seront soumises à d'impitoyables mini et maxi défis. Et des défilés exceptionnels qui mettront en avant leur art. Pour garder leur place dans l'aventure, les deux queens en bas du classement devront faire le show pour sauver leur peau. Avec un lip-sync légendaire. Un jury d'exception sera à mes côtés. Daphné Burki et Kiddy Smile. Qui sera la première reine à remporter la couronne et le sceptre de Drag Race France ? Yeah ! Préparez-vous pour le départ. 3, 2, 1... Bienvenue sur la grande scène de Drag Race France !
Je vous avais dit, rien qu'au son, ça fonctionne. Raphaël Tchoffi, quelle est la mécanique du jeu ? Quelles sont les épreuves ? Comment se passent les éliminations ?
En fait, c'est très simple. Le drag étant un art complet, assez total, l'idée de chaque émission, c'est de mettre en avant un art, que ce soit la danse, la mode, le chant, la comédie. Donc du coup, chaque émission est divisée en plusieurs parties. Ça commence par un mini-challenge qui est assez déjanté et qui permet souvent aux queens de s'amuser, et nous, par la même occasion. Mm-hmm. Il y a un maxi-challenge de la semaine donc, qui met en avant une compétence particulière. Et à la fin, un défilé avec un thème qui change chaque semaine donc pour montrer la mise en beauté par la mode, là où on est très attendu d'ailleurs en France. Et les deux, en bas du classement, s'affrontent sur un lip-sync. En français, on a traduit par un autre mot anglais, un playback, pour savoir laquelle reste dans la compétition.
Alors, Nikki Doll, on va parler des candidates. Elles sont 10, pouvez-nous les présenter ? Qui sont-elles ? On ne les connaît pas, mais leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'elles ont de différent ?
Alors,
l'une de l'autre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a différents types de drag queens. Et je pense qu'avec nos 10 reines françaises, vous avez un panel de drag qui est quand même assez représentatif du décor un peu du drag français. Mmh. Et donc, vous avez des comedy queens, on a une queen à barbe. On a des fashion queens et on a vraiment un large panel de queens.
Elles sont perfides parfois entre elles. Hein.
Alors en fait, c'est ça qui...
Ça bitch un peu.
Exactement, ça bitch beaucoup même. Et ce qui est intéressant entre queens, c'est que sur scène, on est vraiment des représentantes de nos communautés. Et backstage, on est des vipères. Donc du coup, il y a beaucoup de pression dans ça.
Alors je ne sais pas si les vipères, mais il y a une des candidates, j'ai oublié laquelle, dit que Lova la Diva, elle est une drague à l'ancienne. Ça veut dire quoi, une drague à l'ancienne ?
Alors, drague à l'ancienne, c'est qu'en fait, elle représente un peu le background qu'on a en fait du drag français. Il faut savoir que le drag français vient beaucoup du cabaret, du transformisme. Donc on a une drague qui est peut-être un peu plus classique et vous avez des dragues plus axées sur le futur comme des queens comme Cam ou Ellipse.
Pour départager les candidates, on l'a entendu dans la bande-annonce, il y a deux personnalités, Daphné Burki, le chanteur et DJ Kiddy Smile. Mm-hmm. Raphaël Tchoffi, pourquoi eux ? Comment vous les avez choisis ?
À la fois pour leurs compétences professionnelles et leurs qualités humaines. Mmh. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent juger d'autres artistes, parce que Daphné vient de la mode et Kiddy vient de la performance. Et aussi pour leur qualité, parce qu'il faut aussi savoir faire des remarques qui construisent. Des remarques, on n'est pas là pour détruire les gens, on est là pour les encourager et les aider à proposer la meilleure version de leur art.
Et Daphné, qui est une figure de France Télévisions, comment ça se passe ? Comment s'est passée l'adaptation ? J'ai même pas dit qu'il y avait Jean-Paul Gaultier qui était dans l'affaire. Culture Média continue. On est avec Nikki Doll et Raphaël Tchoffi. Culture Média revient.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Drag Race, c'est une nouveauté sur France Télévisions, c'est même une nouveauté en France, c'est un concours de drag queen. La première, c'est ce samedi après-demain, ça sera le 25 juin sur France 2 à 23h30, en lieu et place de l'émission de Laurent Ruquier. Ça va faire bizarre aux habitués, mais c'est justement ça qui est très intéressant. Également sur francetv.slash, avec Nikki Doll qui est avec nous et Raphaël Tchoffi, vous êtes co-auteur et co-producteur de l'émission. On parlait des épreuves, il y a le lip-sync, qui est une sorte de playback. Il y a également une épreuve de défilé, parce qu'on ne l'a pas dit, avec des costumes incroyables. Invité du premier épisode, c'est Jean-Paul Gaultier, le couturier, qui avoue lui-même, il dit « c'est mieux que ce que j'ai fait ». Qui fabrique vos tenues de scène, à vous et à toutes ces dragues ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des queens qui font leur propre tenue. D'ailleurs, vous en découvrirez quelques-unes dans notre casting. Après, il y a d'autres créateurs qui sont vraiment focalisés sur l'univers du drag, parce que l'industrie continue de grossir grâce à des franchises qui naissent. Mais oui, il y a beaucoup de queens qui les font elles-mêmes. Et d'ailleurs, dans l'émission, vous pourrez découvrir des challenges de couture où elles devront faire des tenues sur place.
Mais tous les vêtements sont uniques. C'est pas des vêtements qu'on va acheter dans la ville.
Non, et honnêtement, je vous conseille pas de porter ce qu'on porte pour aller à Monoprix.
J'aimerais bien voir. Raphaël Tchoffi, comment vous avez travaillé à l'adaptation de l'émission américaine? Quelle était la feuille de route? Quelle liberté vous a-t-on laissé? Comment ça s'est passé?
Alors, liberté côté producteur américain et côté France Télévisions, totale. Parce que c'est absolument nécessaire pour cette émission qu'elle
c'était
soit sans
charté,
concession.
C'était pas charté comme les grandes émissions, par exemple dans The Voice ou dans Popstar. Il y a des passages par lesquels on est obligé de se trouver.
Bah, nous, on l'a plus pris comme un savoir-faire que comme des contraintes. Il faut savoir qu'on parle quand même d'une émission et d'un producteur américain qui nous a laissé modifier son logo. C'est pour vous dire, ouais. Nous on a mis une tour Eiffel à la place du A, donc c'est pour vous dire la latitude qu'on a eue. Et ils étaient absolument fans de la France, donc tout ce qu'on proposait, ils trouvaient ça parfois même un peu trop génial. mais du coup, l'adaptation, l'idée, c'est, le vrai challenge, c'était d'adapter le ton plus que les mots, parce que c'est un vrai type d'humour particulier. Et en vrai, pour moi, c'était la partie la plus excitante.
Les vannes, elles viennent de qui? Elles viennent des drag queens? Elles viennent de vous? Elles viennent d'un mélange des deux? Parce que vous êtes auteur, vous leur écrivez parfois les vannes?
Disons que l'impro, c'est du bonus. Donc, on part avec une base solide. Si elle aide et qu'elles peuvent se reposer dessus, go. Mais c'est toujours mieux d'avoir la personne, et Nikki le fait très bien,
mais à la base, qui fait des blagues. À la base, elles sont déjà vipères, pour reprendre votre terme.
Oui, en fait, on est vif d'esprit, on a l'habitude d'avoir un micro tous les soirs pour entretenir l'ambiance dans un club, donc on sait déjà le faire. Après, c'est vrai que le savoir-faire hors norme, il est très timide, mais de Raphaël Tchoffi a beaucoup aidé à ce que justement les challenges soient hors norme et légendaires.
Attention, on n'a pas écrit une ligne pour les queens. Hein.
Non, moi, voilà, je parlais du jury. Préciser.
Il n'y a aucun mot qui sort de la bouche des drag queens qu'on a écrit.
Non, les queens sont, les queens sont challengées, donc on les challenge là-dessus.
Nikki Doll, vous avez participé à la version américaine, je l'ai dit. Quelle différence avec la France? C'était comment la version américaine?
Bah déjà en anglais, donc ça change énormément. Après, c'était une super expérience et ça m'a vraiment aidé à sortir de ma zone de confort et accepter le titre que j'avais d'être la première française à représenter mon pays. Et ça m'a permis d'en arriver là où je suis. Donc je suis très...
Que font les Américains que n'ose pas faire la télévision classique française? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a séduite?
Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, plutôt parler de la production américaine, je vais parler plus de la mentalité américaine. Je pense que le français a tendance à être plus humble quand on parle de nos qualités, et l'américain va plus être « fake it till you make it ». Donc c'est une différence de mentalité, et quand on fait une compétition avec des Américains, c'est une vraie compétition.
Vous pouvez me traduire ce qu'elle a dit?
Il faut faire semblant jusqu'à ce que ce soit réel.
Exactement.
Voilà. On est une émission média, on aime bien parler des coulisses. On va parler des coulisses cet entretien. Ça n'a pas été facile d'avoir le lien pour regarder l'émission en amont, comme on le fait toujours. On a dû envoyer notre rédacteur en chef, Bastien Collignon, à Aubervilliers, au siège d'Endemol Shine, pour voir un long extrait du premier épisode. De quoi aviez-vous peur? Vous craignez le piratage?
Non, c'est pas le piratage, mais c'est une émission où il y a une fanbase qui est assez folle, en vrai, et il y a des attentes qui sont assez dingues.
Oui.
Et
mais je veux dire, pourquoi ça nous a étonné? C'est la première fois qu'on nous fait ça. Même des docs sous embargo d'envoyé spécial, on a pu les recevoir, ils savent qu'on ne casse pas les embargos.
Vous savez qu'aux États-Unis, les monteurs...
C'est protégé à ce point, cette émission.
Bah après, ça, pour le coup, vous parlez de cahier des charges, c'est vrai qu'on bénéficie aussi d'un savoir-faire. Donc, ils ont peut-être essuyé des plates que nous, on n'a pas essuyé et qu'on va éviter. C'est une émission qui est sujette à énormément de spoils.
Aux États-Unis, vous racontiez?
Aux États-Unis, je crois que les monteurs n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone dans la salle de montage, pour vous dire à quel point c'est... Mais parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur cette émission et beaucoup d'envie d'en parler, donc on le préserve au max.
Et le concours américain est diffusé sur Netflix, pourquoi pas en France?
Parce que c'est sur France Télé.
D'accord. France Télé a dit oui tout de suite. Vous êtes allé voir qui?
On a parlé très rapidement aux équipes d'Alexandra et Damiel. Et,
la patronne des variétés.
Exactement. Et moi, ce qui a été super agréable, c'est qu'on a parlé la même langue. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire cette émission pour les mêmes raisons que moi et que nous avec Endemol Shine, qui était un véhicule de valeur et de bonne humeur, en fait.
Les moyens, ce sont lesquels? Il y a le commentaire d'une candidate qui découvre le décor de l'émission. C'est au début de l'épisode 1. Elle dit « Putain, France Télé, vous avez de la thune !» Fin de citation. C'était le cas? Je vois sourire Nikki Doll, il y avait de l'argent sur le plateau,
en fait, honnêtement,
il y avait du décor.
Oui, en fait, en ayant fait la version américaine et du coup pouvoir comparer, c'est vrai que j'avais certaines craintes et j'ai été vraiment bluffé par il y a vraiment eu des moyens qui ont été mis à disposition pour pouvoir faire cette émission et pour qu'on puisse créer notre propre franchise et qu'on peut en être fier. Et je pense que nos Français et le monde entier, fans de Drag Race, sera très fier de notre franchise.
Vous connaissez la France, Raphaël Tchoffi, il y a toujours des commentaires sur Twitter, il y a celui-ci, il y a des personnes qui s'offusquent qu'un tel programme soit financé par, je cite, nos impôts. Que leur répondez-vous ?
Alors, je pense que c'est plutôt à France Télévisions de répondre à ces mots-là, mais je vais citer les équipes d'Alexandra qui vraiment ont fait cette émission comme une mission de service public, et c'est ce que ça doit être. Donc, je pense qu'on est un peu en avance et que ces gens, à la fin, seront très contents que leurs impôts aient été dépensés comme ça.
Et je pense que les personnes qui mettent ce genre de commentaires ne sont pas encore au courant exactement de ce que le show a à offrir. Ce n'est pas uniquement une compétition de drag queen. Vous avez aussi des témoignages de vie, des traumatismes que des personnes LGBTQI ont vécu et qui ont réussi à transformer ça en art. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est inspirant et qui va justement aider à fédérer et à réunir des communautés qui ne sont pas forcément toujours en accord. Donc, moi, je pense que c'est un très beau message, que ce soit sur le service public.
Complètement, d'oublier de vous demander ceci. On voit parmi les candidates des femmes trans, des drags qui assument les rondeurs. Il y a toutes sortes de corps dans le concours. Et on voit même à l'image, dans les vestiaires, des drags sans maquillage, sans vêtements. Pourquoi ce choix ? Normalement, dans les émissions où se produisent des artistes, on les voit toujours en tenue de scène. Jamais en tenue de ville. Pourquoi ce choix ?
La préparation fait partie de l'émission. C'est-à-dire que la première moitié de l'émission, d'ailleurs, Nikki elle-même passe la moitié de l'épisode hors drague. Mm-hmm. Et on voit l'évolution, la mise en personnage qui fait partie aussi souvent de la dynamique de l'épisode.
Voilà. Et puis en plus, je pense qu'une drag queen en général, quand on la voit à la télé ou dans la rue, on a tendance à la déshumaniser. Et là, le fait de pouvoir voir qui se cache derrière ce personnage, ça vous permet de vous connecter à la personne et de surtout mieux comprendre le thought process, Je n'arriverai pas à traduire ça.
Le processus mental, si j'ai compris ce que vous vouliez dire.
Exactement, merci.
Nikki Doll, si vous voulez la voir, vous nous regardez en podcast sur europe1.fr, car vous êtes venue parfaite en drag queen.
Ne zoomez pas, merci beaucoup.
Vous étiez parfait aussi, Raphaël Chauffy. Merci d'avoir
c'est gentil,
été avec
c'est
nous.
Gentil. Ça a pris moins de temps.
Drag Race France, c'est après-demain, samedi, à 23h30 sur France 2. Et puis, on peut voir les épisodes chaque jeudi à 20h sur France TV/. Merci encore d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Culture Média, ça continue évidemment après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il a regardé l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron hier soir. Il a repéré une grande différence avec celle qu'avait prononcée le président il y a tout juste 8 jours. Notre invité est la romancière Anne Goscinny. On parle de son dernier roman qui s'appelle Romance. Et puis dans Les Indispensables, on va avoir peur. On parle de jeux vidéo d'horreur et une série documentaire glaçante qui se penche sur un gourou polygame et prophète auto-proclamé. Rien à voir. Ensuite, l'humoriste imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.